Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobo Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Désormais, les entreprises minières auront l'obligation de faire profiter les entrepreneurs locaux dans les fournitures du matériel minier. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres hier. Rénovation du stade du 4 août, le gouvernement débloque 15 milliards de francs CFA. Insécurité vichère, le mouvement On n'en peut plus interpelle le chef de l'État Roch Kabori sur l'insécurité et la vie chère. Il souhaite des actions fortes et concrètes. Affaire crise des sous-marins australiens, après plusieurs jours de tensions diplomatiques, Emmanuel Macron et Joe Biden ont promis hier lors d'un appel téléphonique de restaurer la confiance entre la France et les États-Unis. Lutte contre la corruption dans le domaine de la justice, le bâtonnier Maître Paulin Salamberry invite les avocats à une autocritique et les citoyens à une prise de conscience en dénonçant tout acte de corruption. Il est notre invité. Bonjour et bienvenue à cette édition. Désormais, les entreprises minières auront l'obligation de faire profiter les entrepreneurs locaux dans les fournitures du matériel minier. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres hier. D'autres décisions sont à noter, comme le déblocage de 15 milliards de francs CFA pour la rénovation du stade du 4 août. Plus de détails avec Chalda et Momoni Tamboura.
À la table de ce Conseil des ministres s'invite le dossier sport. Désormais, la mise aux normes du stade du 4 août sera une réalité. Fermé depuis mars 2021, le stade du 4 août sera rénové à un coût de plus de 15 milliards de francs CFA. Ousseine Tamboura, porte-parole du gouvernement.
Le premier est relatif à la conclusion de marché par la procédure d'entente directe pour les travaux de réhabilitation et des mises aux normes du stade du 4 août de Ouagadougou au profit du ministère des Sports et des Loisirs. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à un groupement pour un montant de 14 695 661 francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de 11 mois. Le suivi contrôle est assuré par le groupement Gretec SARL pour un montant de 564 122 945 francs CFA TTC avec un délai d'exécution presque voisin, donc de 12 mois.
L'activité minière prend de l'ampleur au Burkina Faso, mais les entreprises locales ne profitent pas assez. Le gouvernement, à travers un décret, voudrait que les sociétés minières, à travers la chaîne d'achat, réservent un certain nombre de pourcentages aux entreprises locales. Bachir Ismaël Ouedraogo, ministre en charge de l'énergie.
Les ressources minières, qui constituent donc le premier produit d'exportation au Burkina Faso, puissent réellement bénéficier donc aux entreprises locales. Je puis dire qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour notre secteur parce qu'avec ce décret, les sociétés minières maintenant ont obligation dans la chaîne donc d'achat de réserver un certain pourcentage pour les entreprises locales et de faire de telle sorte que cette manne-là que nous avons puisse réellement bénéficier aussi aux entreprises burkinabées.
Au terme de ce conseil, le gouvernement, par un décret, autorise l'organisation du baccalauréat par le ministère en charge de l'éducation nationale.
Merci à Chalda. L'insécurité et la vie chère étaient au cœur d'une conférence de presse animée hier par le mouvement On n'en peut plus. Pour cette association, ces deux mots mettent à mal l'épanouissement et le développement du pays. Les premiers responsables du mouvement souhaitent des actions fortes et concrètes du chef de l'État. Le reportage de Joël Souré avec la voix de Aïna Tiemtouré.
Le Burkinabé a faim dans un pays en proie aux attaques terroristes. C'est le constat fait par le mouvement On n'en peut plus. Face à la presse ce 22 septembre, l'organisation dirigée par Mahamadi Ouedraogo se base sur son rôle de veille citoyenne pour une fois de plus condamner ce qu'il qualifie de silence des gouvernants. Mahamadi Ouedraogo, coordonnateur du mouvement On n'en peut plus.
C'est pas qu'on n'aime pas le président Kabore, on l'aime bien, mais si le coût de la vie ne chute pas, qu'il soit sûr que les populations vont sortir. Voilà, les populations vont sortir. Ça, on ne peut pas empêcher un Burkinabé de ne pas sortir manifester parce qu'il a faim. Aujourd'hui, les gens ont faim. Mais vu l'évolution économique et vu les problèmes qui sont en train de s'entasser, greffé à l'insécurité. Je sais très bien que il faut que où il est, il trouve vraiment des conseillers qui sont des gens véridiques, des gens qui peuvent vraiment l'aider à sortir le pays là. On est déjà dans le gouffre, hein. On va dire qu'on va au gouffre, on est dans le gouffre. Voilà, donc il faut qu'il arrête de prendre de l'ancien pour faire du nouveau. Quand je dis prendre de l'ancien pour faire du nouveau, c'est prendre des anciens ministres pour les faire comme des conseillers. Quelqu'un qui a été un ministre, il n'a pas pu t'apporter quelque chose. Tu le prends, tu fais ton conseiller. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter?
Autre point de l'actualité abordé au cours de ce point de presse, c'est la corruption dans le secteur des infrastructures publiques et le maintien de la fermeture du lycée Philippe Zenda Kabori. Des actes condamnables selon le mouvement On n'en peut plus, qui exige la réouverture du plus grand lycée du pays dans un bref délai.
Le maire de la ville de Ouagadougou a présenté mardi le projet d'assainissement et de drainage de la capitale à ses partenaires techniques et financiers. Cette présentation s'est faite en deux étapes. D'abord, une projection dans les locaux de la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, suivie d'une visite sur le site de construction du drain de Tangam. Yaya Adjomonde.
C'est un projet de réalisation de près de 5 km de canalisation en béton armé de 15 mètres de largeur qui est présenté à un groupe de bailleurs européens dénommé Team Europe Initiative. Ce drain longera la ceinture verte de Ouagadougou jusqu'à l'entrée du parc urbain Bangruego et réduira conséquemment le risque d'inondation dans plusieurs quartiers de la ville, notamment Tangé. Arma Bewende est le maire de la ville de Ouagadougou.
Tangé, c'est un quartier qui est juste à côté du barrage et il y a des bas-fonds dans ce quartier et malheureusement quand il pleut, nous avons beaucoup d'inondations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits jusque-là, mais aujourd'hui il y a des canaux primaires qu'il faut réaliser et pour cela nous avons fait un plaidoyer auprès de l'Union européenne avec nos projets d'aménagement de la ville de Ouagadougou. Nous avons une réponse favorable.
Ce sont près de 10 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour la concrétisation de ce projet. Et ce, grâce au partenariat entre les autorités burkinabées et Team Europe Initiative, composé de la Banque Européenne d'Investissement, de l'Union Européenne et de l'Agence Française pour le Développement. Maria Chow Barakan est la porte-parole de Team Europe Initiative.
Et nous sommes venus pour comprendre quels sont les besoins de Burkina Faso et comment nous pourrons travailler ensemble en partenariat sur ces priorités communes. Et l'une des priorités, c'est bien sûr tout ce qui est l'adaptation au changement climatique. Dans le changement climatique, il y a le travail dans l'agriculture, l'adaptation de l'agriculture et bien sûr le travail de toutes les femmes qui travaillent ici.
En plus du canal, le projet accouchera à terme des caniveaux et d'un bassin de rétention aménagé qui amélioreront la qualité de vie de 500 000 habitants de la partie nord de la ville de Ouagadougou.
Restons avec la mairie de Ouagadougou qui a révélé hier qu'environ 200 tombes sont hors bon âge au cimetière de Taptenga et de Zaktouli. Dans un communiqué, la mairie précise qu'elle se réserve le droit de procéder à l'exhumation et à la réinhumation des restes mortels si les parents ne prennent pas attache avec la direction des pompes funèbres dans un délai de 2 semaines. Ces tombes ont été identifiées lors d'une étude entrant dans le cadre des travaux de construction de la clôture des deux cimetières, à savoir celui de Taptenga dans l'arrondissement 10 et Zaktouli dans l'arrondissement 7. Hors de nos frontières au Bénin, l'ancien président Yayi Boni, revenu depuis quelques jours à Cotonou, a été reçu hier en audience par le président béninois Patrice Talon. Les deux leaders politiques ne s'étaient pas rencontrés en tête-à-tête depuis 2016. Après plusieurs épisodes de rivalité, la rencontre entre les deux hommes politiques ne laisse personne indifférent. Latifou Boni depuis Cotonou pour plus de précisions.
Une parfaite orchestration. À la sortie comme au démarrage de la rencontre entre les deux hommes, la mise en scène presque cinématographique. La rencontre s'achève comme elle a démarré, sourire, les Béninois en voulaient, ils sont servis avec des mesures.
Merci beaucoup.
Derrière la mise en scène, la rencontre elle-même a permis à Boni Yayi de poser plusieurs problèmes d'ordre politico-judiciaire. L'ancien président est président d'honneur d'un parti politique dont plusieurs cadres sont derrière les barreaux. Accusé de terrorisme, il a plaidé pour leur libération. Plusieurs poids lourds politiques et économiques sont en exil. Là encore, Boni Yayi a plaidé pour le retour des exilés politiques. Signe d'un changement de discours, Boni Yayi précise aux médias, je cite, « Moi je demande, c'est lui qui décide ». Quoi qu'il en soit, la rencontre Patrice Talon-Boni Yayi est un grand événement. Depuis 2016, le début de la présidence Talon, lui et Boni Yayi ne se sont vus qu'une fois et c'était en Côte d'Ivoire. Les présidents du Togo et de la Côte d'Ivoire avaient tenté à l'époque de désamorcer la rivalité, née autour de 2013 quand Boni Yayi consommait encore son deuxième mandat. Depuis, aucune rencontre entre les deux, sinon une adversité nourrie par médias et partis politiques interposés. 2019, à ce jour, trois élections ont eu lieu et les partis politiques proches de Boni Yayi ont brillé par leur absence. Les conséquences ont été extrêmement conflictuelles avec plusieurs morts dans certaines parties du centre et du nord du pays où l'ancien président jouit encore d'une grande popularité. Des antécédents, la vive rivalité, les violences post-électorales, les exilés derrière les caméras et la mise en scène, durant les 50 minutes, les deux hommes ont eu beaucoup à dire. Les Béninois attendent des actes pour voir la paille se tourner et un retour aux préoccupations actuelles qui sont la sécurité alimentaire avec un panier de la ménagère qui s'amenuise au vent des caprices du climat et des affres de coronavirus. Latif Boni Cotonou, Radio Omega.
Direction l'Algérie où l'ancien chef de l'État Abdelkader Ben Salah à la tête du pays pendant un intérim de 8 mois en 2019 après la chute de l'ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika est décédé hier selon la présidence. Ben Salah, qui s'est éteint à l'âge de 119 ans à la suite d'une longue maladie selon ses proches, avait été nommé chef de l'État par intérim le 9 avril 2019 en vertu de la Constitution quelques jours après la démission de Bouteflika sous la pression d'un mouvement de contestation massif. Sa mort survient 5 jours après celle de Bouteflika décédé à vendredi. Selon la présidence, Ben Salah sera inhumé aujourd'hui après la prière de la mi-journée au cimetière d'El Alia, une dizaine de kilomètres à l'est de la capitale Alger. Et nous restons en Algérie où les autorités ont décidé hier de la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc. Selon la présidence algérienne, cette décision fait suite à la poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part de Rabat. Et puis enfin, sous-marin, Joe Biden et Emmanuel Macron ont fini par s'expliquer hier. Le président américain a appelé son homologue français. Ils ont prévu de se rencontrer fin octobre prochain en Europe. Le président américain a reconnu le rôle stratégique de la France et de l'Union européenne dans la région Indo-Pacifique. Washington qui précise que les tensions semble apaisée et l'ambassadeur de France va retourner à Washington la semaine prochaine. La semaine dernière, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni avaient annoncé une alliance stratégique rompant de fait le contrat que la France avait avec l'Australie pour lui fournir des sous-marins. S'en est suivi une escalade marquée par le rappel à Paris pour consultation des ambassadeurs français à Washington et à Canberra.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Les avocats de l'UOMOA tiennent depuis mardi à Ouagadougou le deuxième congrès placé sous le thème « Justice et corruption ». À cet effet, nous recevons comme invité Maître Paulin Salamberi, bâtonnier. Interrogé par Brigitte Chouda, il invite les avocats à une autocritique et les citoyens à une prise de conscience en dénonçant notamment tout acte de corruption. Écoutez plutôt.
Maître Paulin Salamberi, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous tenez depuis mardi votre deuxième congrès des avocats de l'UEMOA, un congrès qui prend d'ailleurs fin aujourd'hui. Il se tient sous le thème « Justice et corruption ». D'abord, dites-nous, quelle définition vous donnez à la corruption ?
Il faut dire que le thème central, c'est « Justice et corruption ». La corruption, de façon générale, c'est lorsque on sollicite ou on agrée des sommes ou autre chose pour un travail alors que cela est indu. Lorsque vous devez accomplir un acte et qu'on vous sollicite donc l'établissement de cet acte, si cet acte n'est pas payant, vous ne devez pas recevoir de l'argent pour établir cet acte.
Et pourquoi ce thème « Justice et corruption » ?
Je pense que c'est un thème d'actualité Et notamment ces dernières années, la justice est décriée, pas seulement au Burkina, mais un peu partout. La justice est soupçonnée d'être au cœur de la corruption relativement à certaines décisions qui sont rendues, à tort ou à raison. C'est la raison pour laquelle donc nous avons pensé qu'il était utile de nous retrouver, de réfléchir sur la thématique et voir quelles contributions les avocats pourraient apporter donc éventuellement à solutionner ce mal qui est vraiment un fléau pour nos économies.
Vous l'avez dit, la justice est décriée. Pour le RENLAC, la justice est le maillon faible de la lutte contre la corruption. Le RENLAC avait également, dans un de ses rapports, dénoncé une justice à deux vitesses, estimant que lorsqu'il s'agit de punir les petites gens, la justice est prompte et sans pitié. À l'opposé, quand il s'agit, par exemple, de puissants hommes d'affaires, la justice devient comme paraplégique. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?
Il est difficile de se prononcer relativement à ces conclusions du RENLAC parce que, voyez-vous, pour une infraction similaire, les peines peuvent être différentes parce que les circonstances de l'accomplissement de ces infractions influent également sur la décision rendue par nos juridictions. Ce qui fait que lorsque nous n'avons pas connaissance exactement des faits d'un dossier, on se prononce de façon générale, mais lorsqu'on va dans les détails et qu'on prend connaissance des éléments du dossier, on peut comprendre pourquoi, pour une même peine et pour une même infraction, les juridictions n'ont pas appliqué la même peine. Voilà, il y a des circonstances atténuantes, il y a des circonstances aggravantes. Donc, ce n'est pas parce que le citoyen lambda a l'impression qu'il a fait une faveur aux personnes nanties. C'est le dossier qui détermine donc les décisions rendues par la juridiction.
Alors, que faire pour que le citoyen lambda n'ait pas cette impression-là?
Je pense qu'il faut communiquer. C'est la communication. Maintenant, il appartiendra donc, lorsque je dis à la justice, c'est pris dans sa globalité. Donc, que ce soit les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers, tous les acteurs de la justice doivent pouvoir faire passer une communication pour d'abord faire comprendre aux citoyens lambda quelle est l'activité de chaque profession, comment chaque acteur de la justice doit se comporter. Et je pense que cela va amener les citoyens lambda à mieux comprendre et à avoir donc des positions plus réservées par rapport à une décision de justice.
Alors, votre collègue du Togo, le président de la conférence des avocats de l'UEMOA, a parlé de conscience et de discernement des avocats pour lutter contre la corruption. S'agit-il d'une autocritique?
Oui, c'est une autocritique. Faut pas qu'on se voile la face. Il est certain que parmi nous, il y a des avocats qui s'adonnent à ces pratiques. Et il faudrait d'abord que nous remettions en question, que nous remettions au jour le serment que nous avons prêté pour exercer cette profession, parce que, comme vous le savez, le maillon de la justice est très sensible, et lorsque ça ne va pas au niveau de la justice, également cela a des conséquences négatives même sur la société et sur l'équilibre même social.
À l'ouverture de votre deuxième congrès, vous avez dit que pour lutter contre la corruption, il faut travailler en synergie. Qu'entendez-vous par travailler en synergie d'action?
Oui, en synergie, c'est tous les acteurs de la justice, les citoyens lambda et également les autorités. C'est un travail commun parce que un pan de la société ne peut pas lutter contre la corruption pendant que l'autre pan fait autre chose.
Alors le citoyen, comment est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire?
Il doit dénoncer d'abord. Je ne pense pas que ce soit ancré dans tel ou tel secteur d'activité, mais le plus souvent c'est le citoyen lambda qui va vers donc celui qui est chargé de fournir le service pour lui proposer une rétribution indue. Donc cela commence par une prise de conscience donc de la population pour savoir que si vous allez au palais de justice, vous avez besoin d'un casier judiciaire. Au niveau donc du service du palais de justice, tout est indiqué sur les coûts et les délais de délivrance donc de ces documents. Si, nonobstant cette information qui vous est partagée, vous allez aborder un personnel du tribunal et vous lui proposez 5 000, c'est de la corruption, c'est comme cela que cela commence. Donc si déjà le citoyen lambda a un comportement civique probe, je pense que nous arriverons donc à vaincre cette corruption.
Maître Paulin Salambéré, merci.
Merci.
Vous l'aurez compris, c'est ici que prend fin cette édition. Fidèle Compaoré, à la mise en onde, Denis Zungrana, la présentation. Excellente journée à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.
Bonne nouvelle. Bonne nouvelle.